Bonjour, bienvenue à ce 5 à 6 table ronde, panel, discussion sur la provocation. Je suis Mélanie Demers. Je vais faciliter, provoquer la discussion entre vous et les artistes et entre les artistes. Donc, on a une heure pour se poser les questions qui sont intéressantes ou pas intéressantes. On va voir de quoi il en retourne. So, we have an hour to speak and discuss and reflect on provocation in art and in dance. So let's begin. When I was asked, quand on m'a demandé d'animer la discussion, ma première réaction a été évidemment de sauter sur Internet et de faire provocation art contemporain, puis de voir tout ce qui sort. Et on n'a pas eu le nom de Dave Saint-Pierre, on n'a pas eu le nom de Miguel Gutiérrez et on n'a pas eu le nom de Daisuke qui sont arrivés, mais quand même des choses super intéressantes. Je veux d'abord vous présenter les artistes, Brigitte Poupard et Dave Saint-Pierre, qui présentent en ce moment le spectacle What's Next. On a Miguel Gutiérrez ici qui va présenter dans les prochains jours le spectacle Last Meadow. Et on a Daisuke Miura qui présente aussi dans les prochains jours au FTA le spectacle Château de rêve. Donc, tous ces artistes ont quelque chose à voir avec la provocation. On va d'abord leur demander si le sujet est intéressant en premier lieu.
So first question would be, is the topic, the question interesting? Is provocation in dance or in art, is it interesting at all? Do we have to think about it or is it already dépassé?
Dave, j'ai l'impression que tu as envie de sauter sur...
En fait,
la question.
Il est intéressant au niveau administratif, pas au niveau artistique. Je vis présentement des moments assez difficiles avec ma compagnie, des producteurs qui me demandent de prendre moins de risques pour me coproduire. Donc, il est là. Les producteurs et les diffuseurs ont beaucoup de misère à suivre les artistes qui font dans... Parce que moi, je dis que je suis semi-provocant, parce que j'ai pas l'impression que je fais de la provocation pure et dure. Donc, je pense que le débat, pour moi, se situe beaucoup à ce niveau-là, en fait, sur pourquoi les producteurs et les diffuseurs peuvent choisir en fonction des spectateurs. C'est beaucoup ça, mon questionnement.
Est-ce que pas pour toi une question qui vient avant les diffuseurs? Donc, quand toi, tu es tout seul en studio, est-ce que tu n'as aucune limite possible? Et est-ce que c'est une règle que tu te donnes de vouloir provoquer le public? Est-ce qu'il y a une intention de provoquer? Is there an intention to provoke?
20% oui, 80% non. Quand je suis en studio, je ne pense pas vraiment si c'est provocant ou non. Je rentre en studio, donc avec Brigitte, on entre en studio, puis on s'est dit, tiens, on fait tout ça, OK, on fait ça, on essaye. Donc, on a beaucoup essayé, c'est surtout sur l'erreur. On fait des affaires, on a présenté devant le monde, il y en a qui n'ont pas réagi, bon, mais on va réajuster. Mais fait que tout est. Puis, encore une fois, tout dépend du spectateur. C'est le spectateur qui va voir ce qui se passe devant lui, c'est lui qui va trouver ça provocant ou non. Parce que si on regarde What's Next ou les autres spectacles que j'ai faits, il y a des gens qui trouvent ça super intéressant, super touchant, puis d'autres qui trouvent ça banal comme pas mourir, puis d'autres qui trouvent ça hyper choquant. Donc, encore une fois, comme votre question, ce qui est banal pour certains et choquant pour d'autres. Là. Mais je fais pas ça en fonction de choquer le monde.
Miguel, do you think that this question is interesting to start with? Provocation in art?
I feel like the question sort of sets itself up or sets us up or artists up in a false way it creates these polarities that I'm not particularly interested in. I mean, I think I don't know if you said this already, so I understood some of it. I didn't understand others. I feel like it makes monoliths and makes the audience into a monolith, makes the work into a monolith, and I just don't experience things that way. You know, I don't think an audience is one thing, and I don't think a person in an audience is one thing. I think they have multiple ways of viewing, and I think inside of any given artwork, at this point in time, there are so many histories that we're contending with that, you know, we can see something that, you know, on a sort of first read or sort of on the surface, we may say, oh, that's outré, or that's very like, ah. But it's like that exists inside of a very long history, you know, and that has that an aesthetic history, a sort of a history of interaction with the audience. And I don't know, it just, I think in some ways it presupposes that the work that's being discussed has to look a certain way to even fit into one of the categories that are presented. And I think one of the things that's more challenging is an experience that is multiple. That's something that I'm very interested in. Mm-hmm. I think when people impose that expectation on my work, they're doing themselves a disservice, actually.
That is true. Daisuke, est-ce que pour vous, c'est la même chose, la provocation, c'est une question intéressante ou c'est une question à laquelle vous ne pensez même pas?
そうですね。僕の場合はまず挑発しようという意思はあまりありません。どうしますか?
Bon, bout par bout, hein, parce que j'ai une mémoire assez limitée. Moi, c'est drôle, moi, c'est pas du tout mon intention de provoquer à travers mes pièces, d'abord.
その、なんで自分が興味のあるものを突き詰めたときに、その観客にとって挑発的と捉えられるという、それはもう自然発生的にそうなってしまうということで。
C'est que moi je suis d'avis que ce qui m'intéresse doit intéresser la majorité des jeunes de ma génération. Nous vivons dans une société contemporaine du Japon, et puis moi il y a des choses qui me dérangent. Ça veut dire que ça doit déranger la plupart des gens. Et puis jusqu'ici, c'est avéré comme ça.
クリエイターはいないと思うので、たまたま僕がやりたいことが皆さんにとってはそういう挑発的なことと捉えられるというだけだと思います。Mais
en tant qu'auteur, en tant que metteur en scène, évidemment, on veut être différent des autres, n'est-ce pas? Alors, créativité, l'originalité est très proche de quelque chose qui est nouveau, alors d'où la provocation, mais comme résultat. Mais ce n'est pas, ça ne doit pas être, c'est pas en tout cas, pour moi, le but premier.
Au contraire, j'aimerais
vous poser des questions. J'aimerais profiter de cette occasion-là. C'est quand même assez unique de se donner une opportunité. Pareil, j'apprécie beaucoup de m'inviter ici. Qu'est-ce que c'est pour vous la provocation? Quelle sorte de provocation vous dérange, vous étonne, vous touche, vous êtes importante? Est-ce que c'est quelque chose de spécial, l'image, comme quelque chose d'assez osé, sur le plan sexuel, par exemple, ou le thème? J'aimerais bien savoir qu'est-ce que les Québécois pensent comme provocation. Qu'est-ce qui vous provoque le plus? Alors, il vous lance là.
So we have the artist asking the question to the audience, so it's a complete provocation. S'il y a quelqu'un dans la salle qui a envie de répondre à la question lancée par Daisuke, qu'est-ce qui vous provoque? Parce que semble-t-il qu'on a 3-4 artistes sur le panel qui ont, je ne sais pas, on n'a pas encore entendu Brigitte parler, mais qui n'ont pas nécessairement l'intention de choquer, de provoquer, et qui finalement le font. Donc on veut savoir de la part des artistes, qu'est-ce qui provoque les gens? Qu'est-ce qui touche les gens? Qu'est-ce qui les remue? Personne?
Quelqu'un. Oui. Est-ce qu'il y a un micro, est-ce qu'il y a un micro pour...
Là.
La personne, c'est vous ?
Oui, c'est moi.
Bonjour.
Bonjour. J'ai préparé un petit peu mon intervention. Je peux parler un tout petit peu longuement et exposer un petit peu mon point de vue, le développer. Voilà.
On va laisser les artistes parler, mais comme la question est lancée à l'audience, oui, on peut vous entendre.
Oui, alors je suis embêtée parce que je n'ai pas vu le travail de Daisuke, que je ne connais absolument pas. En revanche, j'ai vu plusieurs pièces de Dave Saint-Pierre ainsi que de Miguel Gutiérrez. Alors, je voulais vous dire que je suis embarrassée par la définition même le sujet même de discussion qui est proposé, à savoir choquant ou pour les uns, banal pour les autres, parce que je trouve que ça nous met sur une espèce de règle, de comment dire, quelque chose de très linéaire, où il y aurait une graduation, on passerait, ce serait une question de dosage en quelque sorte, on passerait d'un extrême à l'autre. Et moi, j'arrive pas du tout jamais à voir le monde de cette manière-là, surtout pas ce qui se passe dans un spectacle, surtout pas ce qui se passe dans l'art. C'est un système en fait étoilé, articulé, à des tas de connexions, des tas de niveaux. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est voir ce que ça vient toucher, déplacer, provoquer dans ce sens-là. C'est-à-dire, est-ce que ça vient réellement toucher quelque chose ? Et alors là, j'ai surtout parlé en fait de, excusez-moi, mais à propos du travail de Dave Saint-Pierre. Comment dire ? Pour moi, rien n'est touché. Je parle vraiment en mon nom propre. Personnellement, ça ne me touche pas parce que ça me ramène en gros à là où j'en étais il y a une quinzaine d'années. C'est-à-dire, il y a une quinzaine d'années, je pensais effectivement que nu ou habillé, ça faisait une question. On était soit l'un, soit l'autre. Et d'un côté, il y avait la société méchante qui contrôlait tout, qui censurait, etc. Et puis de l'autre, il y avait la liberté, il y avait le sexe, il y avait, enfin, etc., quelque chose de libérateur, d'excitant, etc. Donc je voyais les choses comme ça. En gros, c'était la conception rousseauiste, le bon sauvage d'un côté, et puis la loi et l'ordre de l'autre côté. Et puis alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Ça, c'est, disons, la vision un peu judéo-chrétienne, cette vision comme ça, l'autoriser, l'interdit. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Alors, je suis français, donc je vois ça depuis les esthétiques en Europe. Il s'est passé tout ce courant extraordinaire de la déconstruction de la représentation, il s'est passé tout ce courant extraordinaire de la danse-performance, il s'est passé tout ce travail autour, par exemple, à partir du philosophe Michel Foucault. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'on a vu des centaines, des centaines, des centaines de nus sur scène. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que lorsqu'on est nu sur scène, eh ben, tout commence. C'est-à-dire, il y a des nus guerriers, il y a des nus faibles, il y a des nus érotiques, il y a des nus glacés, il y a des nus malades, il y a des nus resplendissants, il y a des nus fragiles, il y a des nus puissants, il y a des nus policiers, il y a des nus psychiatrisés, il y a des nus, il y a de tout, 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 tout. C'est-à-dire, le corps lui-même est porteur de toutes les contradictions. Le corps lui-même est porteur de toutes les structures de pouvoir. Et c'est là que ça devient intéressant. Et lorsqu'on me renferme dans une question nue ou habillée, liberté d'un côté, provocation d'un côté, ou ordre et censure de l'autre, je n'arrive pas du tout à fonctionner. Pour moi, rien ne bouge. On me noue à une ligne de partage, comme ça, je suis arrimé à ça. Que je tombe d'un côté ou de l'autre, en fait, ça ne bouge pas. Je suis verrouillé, je suis enchaîné à cette ligne de partage. Cette ligne de partage, elle est dualiste, elle n'est plus pertinente à mes yeux. Et ça ne fonctionne pas. Voilà.
D'accord. Merci. Est-ce qu'on peut avoir Brigitte qui répond à la...
C'est drôle, moi, on parle de provocation, mais pour moi, la provocation, c'est gratuit. C'est-à-dire que la provocation pour un artiste, c'est se provoquer soi-même, se provoquer dans le travail, se provoquer dans ce qu'on veut dire. Et elle est là, c'est... Moi, je pense qu'un artiste, dans le travail qu'il fait, l'art en général, c'est par l'art qu'on mesure l'avancement d'une société. Alors, ce qui était provocant il y a 15 ans, quand ce n'est plus... par exemple, moi, j'ai fait un spectacle il y a 20 ans où on était nus sur scène et on s'est fait arrêter par l'escouade de la moralité. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème d'être nu sur une scène ou même de demander à des spectateurs d'être nus. Alors, pour moi, c'est là que je mesure... pour moi, elle est là, la provocation. Jusqu'où on accepte, qu'est-ce qu'on accepte. Mais un artiste doit se poser ces questions-là et doit aussi repousser les limites au maximum, en fait. Parce qu'après ça, c'est comme ça qu'on mesure jusqu'à quel point on a évolué ou pas évolué, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi ça choque. Pour moi, il est là le questionnement, en fait. C'est un questionnement récurrent.
Brigitte? Pour avoir vu le spectacle hier, on se demande aussi si les limites à repousser que vous avez décidé de repousser sont plutôt les vôtres plutôt que celles du public. Hein? On dirait que c'est comme ça que vous avez réfléchi avec les fantasmes scéniques. On dirait que vous avez voulu vous mettre en situation de danger à ce niveau-là.
C'est ce que je disais, c'est que si on veut juste provoquer le public pour provoquer, pour moi, c'est gratuit. Il faut que ce soit, personnel quelque part. Un peu comme ce que disait, je me souviens plus de son. Oui, voilà. C'est-à-dire que c'est ses préoccupations à lui. Et les préoccupations sont peut-être communes après. Là, et on rejoint son public.
Donc on a des artistes qui n'ont pas l'intention de provoquer, mais qui se retrouvent dans une dynamique de la provocation quand même. Donc, qu'est-ce qui arrive une fois que l'intention de départ est marquée? On n'a pas l'intention de provoquer, sauf que les gens nous étiquettent, les gens nous mettent dans cette case-là. So, just for Miguel, I said that apparently we have four artists on the panel who don't necessarily have the intention to provoke, but they are ticked in the box of provocation. What happens? How do you let yourself being free from that?
Well, I don't think it's entirely true. I don't know if we're all being honest, but I know that when I first started making work, I don't know if provocation was the word, but agitation I think I just needed to agitate myself. My work came. My early work came out of so much out of a place of frustration, and almost like a sense, like an adolescent, you know, like this feeling of like what I want doesn't exist. How do I make it exist? You know, I mean, it's just pretty basic. I mean, it was a very. I would go see shows, and I would get so angry that I would go make something because I just was so annoyed at how much I hated what I'd seen. And so that was a big driver. And, you know, inside of that, there was maybe stuff about the work that had a certain... I think very, very soon in my work, or from what I was told, there was a feeling of importance. Not like the work was important. I mean, like, that the fact that it's happening, that moment became important. For me, that sort of meeting... that agreement to be there felt extraordinarily important, you know, and there was always something about, almost foolishly so for me, that I wanted to offer everything I had. And I think sometimes people were very, what the fuck is this? You know, like, this is more than we want, this is more than we ask for, this is more than we can handle. Or they just thought it was naive, you know, which is probably also possible. You know, I think contextually there are instances when provocation feels appropriate, or I'm just remembering certain smaller shows that I did in strange places in the United States, of which there are many. When you can feel that the space has a certain kind of rules, like there are rules that come with the venue, and so, you know, you very quickly feel what the rules are, and you want to break the rules. Like, that's just very obvious. And, again, that can be quite foolish, that can be really appropriate, you know, but it's like you're feeling the perfume, and you want to like stick, you know, the smell of fish or something in it, you know? So it's just, it's a way, it's something to work off of, because resistance is such a seductive operation for an artist.
So, je voyais tout le monde hocher de la tête en avec breaking the rules. Mais de casser les règles, il faut d'abord les établir, ou il faut savoir les sentir, comme disait Miguel, il faut savoir les percevoir. C'est une question d'époque, une question de genre, une question de contexte, une question de culture. Je me demande qu'est-ce que c'est de vivre au Canada puis d'avoir à briser des règles. C'est probablement différent aux États-Unis ou au Japon. Est-ce que Daisuke, par exemple, vous sentez que les règles sont très établies et puis que c'est facile de les briser, ou que c'est difficile de briser ces règles-là?
Le Japon est une période très intéressante, très, très instable. Plus c'est instable, plus c'est intéressant pour nous, évidemment. Alors ça change. Il y a des choses qui sont vraiment rétablies, des moralement, comme structure sociale, mais tout ça, ça bouge. Et c'est une chose inquiétante, mais intéressante.
やはり、今までこういう僕ら日本で、活動している、まあ、劇団といいますか芝居がこう海外で公演をするという機会がなあまりなくて、で今最近はすごい多いんです、そういう海外公演でツアーをしていく劇団が。だからやはり何かしらその世界的に見ても日本の演劇に何か新しさがあって、それを求めて僕らは呼ばれているというふうに思っているので、やはりそこら辺でも昔とは違うんじゃないかと思います。
Le phénomène nouveau qui me touche personnellement vraiment beaucoup, c'est ce type d'occasion. Nous sommes invités par des pays étrangers et c'est vraiment un étonnement total. Et pourquoi on est invité? Parce que des choses qu'on prend pour acquis ne sont pas nécessairement évidentes pour vous. Alors c'est très intéressant de voir, constater que nous sommes en train de changer, mais en même temps, d'un autre côté, il y a des choses immuables, assez, qui est bien installées au Japon depuis des siècles et des siècles. Et, amen. Et, donc, il y a un échange très intéressant. Donc, nous, on est différents, mais en tant qu'être humain, peut-être qu'il y a beaucoup de choses communes aussi. Alors, il y a des choses muables, immuables.
なので日本の演劇のオリジナリティを、感じてもらうためにもぜひ見に来て、何が日本演劇の特徴なのかっていうのを皆さんが、こう肌で感じてほしい。
Nous ne représentons pas nécessairement le théâtre, parce qu'il y a des théâtres très bien établis au Japon, le Kabuki, No, etc. Mais on doit être inconsciemment, on doit être inspiré de ces choses-là, parce qu'on prend ça pour acquis, certains rituels, certains codes non dits. Mais j'aimerais beaucoup venir voir ma pièce, si elle commence dès demain, et vous allez voir qu'est-ce qui est typique du Japon et qu'est-ce qui est nouveau par rapport à des choses traditionnelles au Japon et ce que je vous propose.
J'aimerais savoir sur le panel, on n'a qu'une seule femme. Est-ce que c'est différent d'être une femme et provoquée et d'être un homme et provoqué?
Oui, énormément. Oui. Oui. C'est une lourde question. oui, parce que, ben ici, c'est sûr qu'ici en Amérique, le féminisme, c'est sûr qu'on va, la provocation, on va l'associer au féminisme beaucoup. Je serais curieuse de savoir, par exemple, en Europe, ce que ça veut dire une femme qui provoque, ou ailleurs. Ça, je suis curieuse par rapport aux sentiments ou comment on sent. J'ai été, à cause de ça, associée beaucoup à la création. On fait quelque chose de weird, on va appeler Brigitte. Tu sais? Alors, mais c'est qu'on se fait étiqueter, mais J'essaie de répondre intelligemment, mais c'est sûr qu'il y a une différence. C'est sûr qu'il y a une différence.
Mais en fait, quand j'ai fait ma petite recherche sur la provocation, ça disait du latin pro, devant, et vocatio, appel à l'action. Est-ce que c'est pas ça quand on veut provoquer, on veut appeler, on veut inciter, on veut exciter, on veut brasser les cages? Est-ce que c'est ça que
Ben, ça rejoint ce que Miguel disait par rapport à briser les règles. Ça revient à ça, en fait.
Je veux savoir aussi une question qui s'adresse à vous quatre. Est-ce que l'art de la provocation ou le scandale a une valeur marchande? Donc, en étant artiste, en étant provocateur, est-ce qu'on sait que ça va pogner? Donc, my question is there a value to scandal, a financial and marketable value to scandal and provocation as an artist?
Juste regarder les revues qui se vendent à des milliards d'exemplaires où ce qu'on apprend que telle actrice se couche avec telle affaire. Tu sais, le monde veut ça, c'est une espèce de scandale. Bon, là on parle de l'art populaire, disons, mais c'est clair que en art contemporain, tous ceux qui fonctionnent, si on regarde ça, Marie Chouinard a commencé par pisser sa scène, est devenue une superstar. Édouard Locke a commencé avec une femme seins nus, une moustache, il y a 25 ans. C'est clair que à chaque fois qu'une compagnie qui commence et qui part avec un truc un peu plus osé que tout le monde, cette compagnie-là prend l'avant devant tout le monde. Et il n'y a pas juste le scandale qui prend. Il y a aussi, comme moi par exemple, j'ai eu la chance d'avoir la fibrose kystique. Et niaiseusement, ça aide. Non, mais attends, j'ai été invité sur des plateaux de télé parce que j'avais la fibrose kystique. À la limite, ils se foutaient complètement de mon art, tu vois. Fait que ça aussi, pour moi, c'est une sorte de scandale, tu vois, d'utiliser ça pour pouvoir... Parce que à la limite, l'art, ça les intéresse même pas. Ils veulent juste voir le gars qui était malade, qui fait du tout nu sur la scène. Ce que je fais, ma vision artistique, à la limite, ils en ont rien à foutre, tu vois. Fait que là, puis moi, je me dis, tant qu'à être comme ça, je vais l'utiliser à inviter, venir voir les gens, venir voir mon spectacle. Et les gens, quand ils sortent du spectacle, ils sont toujours surpris parce qu'ils se rendent compte que c'est pas juste ça, qu'il y a autre chose derrière le spectacle. Fait que oui, on utilise le scandale, la maladie, tout ce qui existe pour promouvoir l'art. C'est juste à nous maintenant de l'utiliser intelligemment.
I have so much to say about this topic, though.
Great, let's open it.
So you should tell me to shut up. Oh, God, it's so hard to know how to... Well, first of all, like, scandal. Like, what the fuck is a scandal anymore in dance or performance? Like, I just feel like that idea just sounds so... I don't know. Like, this world feels so small in a way. Like the idea of scandal. I mean, I'm thinking of like Dominique Strauss-Kahn as like a scandal. You know, I'm like, oh my God, there was a scandal. The audience booed. That was scandal. You know, and it's like, what? Scandal. You know, like it just seems kind of funny. But, I remember being at a Maggie Marin show in Vienna and 2 years ago, and it was like, you know, a long, slow, boring show, like many shows nowadays. And you know, which was fine. It was not scandalous. It was just a long, slow, boring show. And people were like, boo! And, you know, like, dansez! You know, vas-y! And I'm like, scream. And the show was in French, and I didn't understand. And I was like, you understand what's happening. Like, I don't even understand what's happening. You know, like, and then people, like, laughed, and then people waited at the end, and they're like, booing, and they're booing. It's just funny. I mean, for me, booing is always kind of great and also just kind of stupid. But I, because in New York, I mean, people don't really boo so much in the United States. Like, they're just too polite, or they're just kind of like, eh, that wasn't very good, you know. But I think it's fascinating to be in context where people feel like they have to let you know they hated it, you know. And I was just, you know, I was sort of bored, sort of intrigued. I really loved the bow because she came out and bowed, and she had this incredible expression on her face, bowing with her company, and everyone was like, you know, and it was like so funny. I just thought, it's just like war. It's like, why do we have to make these stupid sides? Like, I don't know. I just found it so uninteresting that was just my feeling. It's not, I don't want to take away, but what I want to say, two things I want to say about it. One is that, like, yeah, I mean, in certain forms, being scandalous is super marketable.
Is it in dance? Is it in your field?
Yes and no. I think of some people I know who were scandalous, like someone like Anne Liv Young was making things that were scandalous, but then, you know, she also kind of burned bridges because, you know, she's does that, and that's kind of, then people are like, oh, she's a little too much. You know, it's like, you're scandalous if you're manageable. Mm. You know, like, don't, you know, as long as you answer emails, you know, then you can have a career, you know? And it's like, I think of so many artists I know who make all kinds of work that is really challenging. I mean, at this point in my life, I'm sounding like I'm 80 fucking years old. At this point in my life, but I am super interested in nuance. I'm interested in how nuance can be radical. I'm interested in how subtlety can be a radical proposition, because one, because my body's changing. Two, just because I've seen a fuckload of work in my lifetime, and so I'm ready to see something different. I mean, in so many contexts now in performance, it's scandalous to dance. Mm. They danced. Oh, they were dancing. Ugh. You know, and it's like, you know, I just want to say that, like, it's just, it's so relative, you know? And I mean, like I said, I could just go on and on about this, but it's
such no, a... it's a really interesting question, because in visual arts, for example, they say that scandal has a value. You have to create a scandal,
because
then
value
you will be
in that world.
Then you will be on the market. So my question is to ask: we know that there is a market for dance. We're learning it. So I want to know: is it marketable? Is there a real value in provoking an audience?
まずそのスキャンダラスっていうことに今、議論はこうしてますけども、その表面的なことばかり今話されてますが、そのもちろんその時代によってスキャンダラスなことというものは変わっていて、昔が過激だったことは今は過激ではないという状況はあります。
D'abord, il faut bien admettre d'emblée que ce qui était scandaleux, c'est ça, il y a 20 ans, n'est plus du tout aujourd'hui. Les jeunes sont tellement habitués des scènes osées ou sexuelles ou de violence, ils sont tellement habitués. Donc notre réaction change et c'est tout à fait normal parce que le temps change.
なので、その結局スキャンダラスというか挑発というものは、そういうものを全て含めて新しい価値観を提示することだと僕は思っていて、誰もこういうものの見方、もちろん世界の見方、そういうところで着眼点を持って見ていなかったというところに、実は刺激というか新しさというか挑発があってと僕は思って、もっと表面的なことはもうあまりどうでもよくて、
Mais je... il a raison de dire ça. Mais excusez. Before translating, I'm moved. Mais par contre, je suis d'avis, selon mon petite idée, il y a encore l'élu, il y a encore la possibilité de vraiment mouvoir, toucher les gens. C'est proposer notre façon de voir, une autre façon de voir. Les critères, bon, certains parlaient de judéo-chrétienne, bon, c'est la tradition judéo-chrétienne selon la Bible, c'était vraiment le big story. Hein? Là maintenant, ils disent qu'il y a d'autres façons complètement différentes de voir le monde. Si un spectateur arrive, voit le pièce théâtre et puis dit « Waouh, je ne voyais pas ça, le monde, comme ça », ça, c'est vraiment toute une provocation. Donc, par le contexte, par le contenu, essayer de changer les gens qui viennent. Ça, c'est la provocation pour moi. Et c'est une bonne chose.
そういう点も含めて、やはり今、僕らはこの時代に生きているわけで、同時代性といいますか、この時代じゃなきゃやれないものといいますか、それじゃなきゃ意味がないと思ってます。で、それが挑発にもつながってくると僕は思ってるので、その例えば脱いだりとか暴力だとか、そういうことの価値観も時代によって変わっていきますし、ただそこの今の価値観において何をするかというところが問題、重要だと思います。
Alors, il y a 12 éléments pour ça. Un élément, c'est là où on est pareil.Le point commun, être en tant qu'espèce, évidemment, nous sommes des êtres humains, n'est-ce pas? Donc, il y a une valeur
très importante qui nous donne notre sens de vie, mais également il y a une différence culturelle, différence religieuse, différence, ça c'est intéressant de voir. Donc nous vivons dans ces sociétés, n'est-ce pas, dans des pays, dans le contexte différent. Mais pour nous inspirons de notre vie quotidienne, on propose quelque chose de nouveau. Et puis on apprend des pièces théâtre qui viennent de l'ailleurs et nous vous proposons. Et puis si ça, c'est quelque chose d'intéressant, ben c'est une pièce théâtre bien réussie.
Est-ce que, une autre question, est-ce que la provocation est toujours superficielle? Donc, j'ai lu quelque chose qui disait que c'était superficiel, c'était une manipulation du public, c'était une façon de d'éclipser le discours pour se faire éblouir par la forme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça? Is provocation a way to eclipse the deepest aspect of a dance proposition or a theatrical proposition? Is it superficial? Is it a manipulation of the audience? Brigitte, en direct.
Mais, oui, c'est superficiel quand c'est ça l'objectif. Mais je pense que ce n'est pas notre objectif. C'est-à-dire que ça devient provocant parce que c'est des questions, parce qu'on veut briser quelque chose, des règles, parce qu'on veut aller plus loin. Mais c'est très personnel. Je pense que ça rejoint aussi ce qu'il disait. Ça part de quelque chose d'extrêmement personnel.
Est-ce que c'est une manipulation? Est-ce que tu sens la manipulation du public?
Non.
Non. Non.
Non.
Do you feel that you manipulate the audience by provoking a reaction,
yes,
an attention? Great, we have a debate here.
I mean, I'm interested in creating expectations that get shifted. So I totally love manipulating people's ideas of what's going to happen, and thinking that they're in for something, and then that changes. Because I'm fascinated by the fiction of performance. I'm fascinated by the multiple layers of fiction that emerge, and that there's a notion. Something that came up for me starting a couple years ago was that people were always coming to me and saying, "Your work is so honest. It's so truthful," and it's a very beautiful thing for people to say, of course. And I was like, "Ugh." Like it was, I would feel myself kind of almost recoil from that statement, because I understood what they were saying, and I understood what I was, I knew that I was giving them permission to feel something, but when you start to do something over and over, you start to just be aware of the materiality of it, and it becomes unreal in a different kind of way, and so I started to say, okay, maybe this is now a source of content for me. How this idea of truth or sincerity is just another color in the painting, and how I want to offer it, you know, and because performing is so strange, because you're pretending, you're pretending, but you're not, you know, so you're pretending, you're not pretending, you're pretending, you're not pretending, and it's like in your body, right? So it became valid for me to start to fuck with that truth in real time. That started to become important to me. And manipulation, I mean, it has a sort of a dirty connotation, obviously.
Yeah, yeah.
Yeah.
But now, you explain it,
Oui, c'est ça. C'est parce que c'est pas la même chose dont tu parles. Mm-hmm. C'est pas la manipulation par la provocation. C'est une manipulation, c'est dramaturgique.
Yeah.
C'est pas la même chose.
Yeah.
Mais vous voulez rebondir là-dessus?
Ben, y a pas mal.
Non?
C'est ce qu'on parle.
Donc, pour juste continuer encore sur la manipulation, parce qu'il y a encore quelque chose à dire là-dessus. Quand on arrive devant des propositions qui ont un aspect provocant, si on n'aime pas ça, si on n'est pas d'accord, si on réagit, on est souvent catalogué de réactionnaire. Mais comment on fait pour se libérer d'une proposition sans avoir l'air réactionnaire, comme spectateur?
Wow. juste à, aux spectateurs qu'il faudrait poser cette question. Non,
peut-être, peut-être que ça s'en va, mais peut-être que ça s'en va aux gens, oui.
Oui, il y a quelque chose que je voudrais dire. On a parlé tantôt de changer les gens qui viennent, mais l'inverse est peut-être possible, justement. C'est-à-dire que les réactions des spectateurs peuvent amener les gens sur scène à aller plus loin ou à faire quelque chose qui n'était pas prévu.
Tout à fait.
À modifier le rapport. L'exemple que j'ai envie de vous donner, j'avais assisté à une représentation tout à fait exceptionnelle de la pièce Pirandello, de Pirandello, ce soir on improvise, exceptionnelle à cause de la réaction du spectateur. Dans cette pièce-là, il y a un faux metteur en scène qui s'adresse au public et pose des questions au public. Dans le public, il y a des comédiens qui jouent le rôle des spectateurs et qui répondent. Or, ce soir-là, ce qui s'est passé, c'est que le public a répondu à la place des comédiens et a obligé, finalement, de par leur réponse, les comédiens à faire autre chose et à aller beaucoup plus loin. Je dois dire que des comédiens qui étaient prêts à aller faire ça et qui ont été très loin, et qu'il y en a d'autres qui étaient tout simplement en refus, en colère. Il y a même une comédienne qui a montré le poing à l'assistance, ce qui a eu l'effet contraire de ce qu'elle prévoyait, parce que l'assistance a davantage embarqué et le spectacle est devenu tout à fait autre de que ce qui était prévu. Voilà ce que je voulais vous donner comme exemple.
Mais c'est ce qu'on disait, puis c'est un peu ce que Mia disait aussi, c'est que la pire chose pour nous, c'est l'indifférence. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est une réaction, qu'elle soit bonne ou mauvaise. C'est le non-réaction qui est troublant. C'est quelqu'un qui s'en fout, ça, c'est troublant. Mais quelqu'un qui haït ça, c'est aussi excitant pour nous que quelqu'un qui adore ça, là. Effectivement, en ce sens-là, ça peut effectivement orienter ou pousser notre réflexion ou le travail qu'on fait.
Pour vous, est-ce que la réaction des gens influence votre travail? Est-ce que ça influence...
D'abord, la pièce que j'ai apportée cette fois-ci, le rêve de Château de rêve, ça c'est un bel exemple. Puisqu'il n'y a pas de parole, tout le monde comprend, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de sous-titrage. Eh bien, puisqu'il n'y a pas de parole, même les spectateurs japonais, ils n'étaient pas habitués à ça. Waouh! Donc, certains ont adoré, d'autres étaient restés vraiment perplexes. Puis d'autres, certains n'ont vraiment pas aimé ça. Alors, c'était, la réaction était très mitigée.
それでこの芝居は、言葉がない無言劇なんですが、結局その、例えば、なんて言うんだろうな、その無言で言葉がない芝居という方法論をが新しいわけでは僕はこの作品はないと思っていて、その無言劇という言葉がないという芝居をやることによってどこに着地するかといいますか、どこにたどり着くか、どういう価値観をお客さんに与えるかっていう方法論でしかなくて、方法論の一個でしかなくて、そこ無言劇だからすごい、例えばお客さんをいじったり新鮮な刺激を与えたから挑発だっていう捉えられるのは僕はどうも違うような気がして、そこは結構どうでもよくて、じゃあそれを使って一体どこに着地したかっていうところをちゃんと見てほしいと僕は思ってます。
Et donc, pour moi, c'est la première fois que j'ai écrit et j'ai mis sur scène la pièce muette. Et c'est la première fois pour moi, donc c'était une grande expérience. Et puis j'ai trouvé ça très intéressant, la réaction mitigée comme ça. Mais mon but n'était pas de faire une pièce sans parole, mais surtout juste une méthodologie. C'était une approche, une nouvelle approche, et à travers... à cette approche-là qui était pour moi nouvelle, ça va où? Donc il y a beaucoup de choses qui sont encore inconnues, même pour moi-même. Et puis c'est le fait que ce n'est pas rigide, ce n'est pas bien fini. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel.
そうですね。あとを付け足すとするとなんだな。この今回このフェスティバルでこの作品は18式になってるんですけども、それは僕が決めたわけではなくて、フェスティバル側サイドが決めたことなんですが、僕は別にもっと下の人、子供とかに見せてもいいかなと思っています。
Je regrette un peu que cette pièce est réservée seulement pour les adultes, c'est-à-dire 18 ans et plus. Et moi, ça ne m'aurait vraiment pas dérangé que ce soit disponible pour les adolescents.
Oui, Dave aimerait rebondir sur la dernière observation de Daisuke.
Parlant d'adolescents. Il y a à peu près 3 ans, j'ai présenté la pornographie des hommes et il y a des écoles secondaires de Gaspésie qui sont venus voir le spectacle à la Place des Arts. Les jeunes qui étaient entre 14 et 17 ans ont vu la pornographie des hommes. Ils ont tellement adoré, ils ont tellement aimé ça parce qu'enfin, ils comprenaient un langage. Les gens de 14 ans ne sont plus les mêmes que v'là 25 ans, tu vois. Donc, pour moi, quand les gens qui sont beaucoup plus vieux sont choqués par ça, puis quand je vois les jeunes de 14 ans qui ne le sont pas du tout, puis que ça leur parle, puis qu'ils ont l'impression qu'il y a quelqu'un qui parle à leur place, puis que qu'on les comprend et tout ça. Puis surtout, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils sont plus capables de voir des pièces qui sont faites pour les 14-17 ans. Qu'on les infantilise et tout ça. Donc, je me suis dit que finalement, une pièce qu'on fait, elle est là pour tout le monde. Bon, il est clair que certaines scènes peuvent être très graphiques. On ne va pas inviter des enfants de 8-9 ans, on s'entend. Mais les adolescents entre 13 et 17 ans sont capables de prendre ce genre de trucs-là. Ils voient tellement de trucs aujourd'hui avec Internet et tout que maintenant, rendus sur la scène, ils comprennent ce qui se passe en fait.
Oui? Est-ce que c'est une question en fait pour le public maintenant? Est-ce que on est tellement blasé? Est-ce qu'on est tellement endormi? Est-ce qu'on est tellement endormi un peu numb par tout ce qu'on voit qu'il faut de plus en plus nous provoquer? Est-ce qu'on aime ça? Est-ce qu'on veut ça? Est-ce qu'on en mange? Est-ce qu'on ou est-ce que au contraire on veut la nuance, on veut plus de subtilité, on veut plus de profondeur, ou l'un ne va pas sans l'autre? Question publique. So I'm asking to the audience, are we numb by the old weapons? And is it why we need provocation? Quelqu'un veut se jeter, se lancer? Quelqu'un? Oui.
Moi, cette question, je dirais que, encore une fois, le problème, c'est l'espace qui est laissé au spectateur pour qu'il exerce, qu'il fasse son travail, en quelque sorte, enfin, qu'il exerce sa propre liberté créatrice. Et ça, certaines écritures le permettent, d'autres moins. Je voudrais revenir sur ce que disait, je sais même pas dire son nom, je suis désolé. je suis tout à fait d'accord avec son idée que la question, c'est peut-être essentiellement de changer les angles de vue, hein, qu'on peut proposer d'autres manières de voir. En revanche, je voulais corriger un point qu'il a énoncé tout à l'heure lorsqu'il dit qu'il y a du toujours plus, toujours plus, toujours plus, dont on a beaucoup progressé. En gros, on ne peut plus choquer puisque tout a déjà été vu. Je voulais simplement, par exemple, citer un exemple d'actualité. Au prochain festival d'Avignon, l'artiste associé cette année, Boris Charmat, créera une pièce avec 26 enfants sur scène, enfants d'âge école primaire. Et il rappelle qu'il y a 25 ans, Jean-Claude Galota avait, un autre chorégraphe donc, hein, avait créé une pièce où il y avait aussi un grand nombre d'enfants, comme ça sans doute à peu près 25, je l'avais vu à l'époque. Et que ces enfants qui étaient, je pense, oui, peut-être de première classe de primaire ou dernière classe de maternelle, couraient nus sur la scène, comme un grand nuage sur la scène. Ça, c'était très, enfin, c'était une image absolument mémorable, je l'ai encore en tête. Et Boris Charmat remarque, par exemple, que ça, aujourd'hui, ça serait impensable. Il y a eu toute une évolution du regard sur l'enfance, sur la pédophilie, etc., etc., qui fait que ça serait impensable. Et Richard Mas, qui est un chorégraphe, disons, entre guillemets, d'avant-garde, disons, enfin, de recherche, ne va pas du tout faire ça sur le plateau de la Cour d'honneur cet été. Donc ça, c'était pour relativiser l'idée qu'il y aurait une espèce de progression, cette idée, encore une fois, linéaire. Rien n'est linéaire. Tout se réarticule constamment. Voilà. Alors, après ça, pour ce qui est de cette liberté du spectateur, je voudrais revenir, par exemple, à un tableau de la tendresse bordel de merde et au commentaire de Béatrice quand elle dit, de Brigitte, pardon, quand elle dit « Être une femme, c'est pas pareil pour provoquer. » Alors, qu'est-ce que signifie dans la tendresse bordel de merde le fait que ce soit presque toujours les hommes qui sont presque tout le temps nus et je dirais bite en avant, bite au vent, je ne sais pas si ça se dit en québécois, en français ça se dit, bite au vent, enfin en français de France, pardon. Qu'est-ce que ça signifie ça, alors que les femmes sont presque toujours prises dans leur tenue à la Pina Bausch, et éventuellement avec leurs petites culottes sur les chevilles. Qu'est-ce que ça assène ça? Qu'est-ce que ça ferme à mes yeux? Qu'est-ce que ça nous dit d'une certaine vision du monde et d'une référence au féminisme, puisque Brigitte, vous l'évoquiez?
Dans la pornographie des hommes, c'est juste les femmes qui sont nues. Tu vois, donc c'était juste un revers, en fait. Ça a juste été créé comme ça. Il n'y a pas d'idée préconçue de la misogynie et tout ce qui peut venir avec. Parce que, bon, juste pour vous dire, pour la même pièce, on me dit que j'étais anti-gay, pro-gay, anti-féministe, pro-féministe. Pour la même pièce. Alors, à un moment donné, moi, je fais comme, bof, pensez donc ce que vous voulez. Tu vois, à un moment donné, je peux plus rien dire parce que tous les gens ont leur propre façon de voir, leur propre façon de penser. Fait que même s'ils me traitent d'anti-gay, je fais, ben, OK, de vous, je suis anti-gay. Qu'est-ce que vous, on peut vraiment rien dire là-dessus. Je pense que c'est ça. Je pense que le créateur se doit d'être le plus ouvert possible, et, quitte à se faire traiter de tous ces noms-là pour essayer de parler de ces trucs-là. Moi, je suis prêt à me faire traiter de tous les noms, mais au moins j'aurais fait ces trucs-là.
J'ai une question encore peut-être pour Brigitte cette fois. Est-ce que c'est différent de diriger un spectacle qui est provocant ou d'être dans un spectacle qui est provocant? Ou...
C'est la même chose.
Il n'y a pas de différence.
Non, c'est la même chose. C'est juste que quand tu diriges, il faut que tu aies des arguments béton.
Ben, c'est une bonne différence.
Je trouve quand tu es une femme. Je ne sais pas pour les hommes. Mais c'est comme si on questionne plus. C'est comme s'il faut justifier davantage. Et ça c'est fatigant. Parce que c'est la liberté de pouvoir dire « je sais quelque chose, puis on va voir en bout de ligne si... » C'est comme si on nous exigeait d'expliquer beaucoup plus. Mais ça, c'est vraiment personnel, c'est moi comment je me sens. Alors que quand je suis dans un spectacle, comme interprète, je fais ce qu'on me demande de faire. Parce que je sais très pertinemment, pour être de l'autre côté aussi, qu'il n'y a rien de plus fatigant que quelqu'un qui... Tu sais, à un moment donné, il faut le faire... Puis il faut voir après ça dans la globalité, il faut l'avoir fait, il faut l'avoir expérimenté pour voir si ça se peut ou pas. Alors, je pense que comme interprète, il faut être très, très, très ouvert et il faut proposer des affaires. Puis, mais ça, quand tu peux être de l'autre côté, tu sais, tu comprends, puis tu essaies d'aider le metteur en scène, en fait, à aller plus loin, tu sais.
Parce que, en fait, ma question, c'était, quand je vous voyais hier soir sur scène, je me disais, ah, eux, ils se sont imposé ça à eux-mêmes. Puis ici, il y a la notion du courage, puis il y a la notion aussi, quand on voit le metteur en scène qui est à l'extérieur, qui demande ou qui impose, on ne sait jamais comment ça se passe, des choses qui sont courageuses. Donc, comment traverser ce miroir-là? C'est ça que je me posais comme question, en fait. I was asking Dave and Brigitte, what is the difference between directing a show in which you are or directing a show in which you are not? So is there, for you, is there a difference?
Me?
Yeah, for you, Miguel?
Yeah, I mean, I think about this a lot because when I do a lot of solos and I make group pieces, I am often in the group pieces. But there's something about a solo practice which is very different, and I'm able to Yeah, there's just a freedom that I give myself, or but that's such a personal process. As soon as there's other people in the room, I feel like the politics of the situation are so different that I have to. I'm addressing the politics of the situation, and I don't. It's not. I don't know. This is like a big question I have about, you know, what you want, how you ask people to do certain things, and what. Do you have the right to? I don't know. It's like so many things come up in that context, you know, and because there's power, there's hierarchy, there's all kinds of things.
Il y a une question. Oui.
Cet hiver, au théâtre d'aujourd'hui, il y a eu une très très bonne création d'un texte de Michel-Marc Bouchard, Tom à la ferme, une histoire qui se passait donc à la campagne avec une histoire homosexuelle et où un fermier était comme provoqué dans son intimité. C'était vraiment très très bien. Et ils ont voulu faire une tournée et ils ont intéressé presque pas de diffuseurs québécois. Donc, la production s'est terminée là. Et c'était une production qui était très provocante, très engagée, en fait. Plus engagée, plus sincère, plus engagée. Et ça m'a beaucoup interpellé en me disant, dans un lieu protégé, comme le théâtre d'aujourd'hui, en plein cœur de Montréal, il y a un certain public qui accède à cette parole-là et qui y répond. Et soudainement, tu fais 25 000, tu sors de Montréal, et soudainement, il y a des gens en tout cas, qui décident que c'est pas possible ou peut-être que c'est pas possible. Est-ce qu'il y a des coins du monde où vous aimeriez comme vivre une expérience particulière, artistique, un public que vous aimeriez rencontrer, vous confronter à un public que vous ne connaissez pas pour voir ce que ça donne? Parce que c'est peut-être quand même particulier que d'avoir créé aux États-Unis des choses sous l'époque Bush, qui avait quand même un dogmatisme assez fort. J'ai bien peur de voir ce qu'on va créer sous Harper, majoritaire, ce que ça va donner. Il y a donc un pouvoir politique, et ça m'excite, ça m'effraie, mais ça m'excite aussi. Donc, par rapport à différentes régions où vous allez ou pas, il y a quelque chose... Je ne connais pas assez la situation au Japon, mais est-ce qu'il y a des choses... Est-ce qu'il y a des villes au Japon où vous pensez que votre spectacle en dehors de Tokyo, ou bien vous faites des tournées un peu partout et ça fonctionne très bien?
Moi déjà, on me dit que je n'irai jamais au Japon.
I think
à cause de la nudité trop explicite.
その違いはありますね。都市とやっぱりその田舎のその芝居の。
Je vais essayer de répondre à votre question. Et oui, ça c'est des différences vraiment marquées. Des choses qui sont vraiment disponibles dans les grands centres de Tokyo et les petites troupes là qui est comme Monsieur Bouchard. C'est vraiment une grande différence. Et puis, on apprécie les deux.
Ça, c'est intéressant parce que Dave dit qu'il n'ira jamais au Japon parce qu'il y a trop de nudité. Mais je crois que dans le travail de Daisuke, on a une nudité aussi assez choquante. Donc, on peut se poser la question.
Oui, je pense que c'est un incroyable... Interesting. I mean, this is an extraordinary privileged environment, you know. I mean, this festival, it's beautiful. We're in, you know, this it's a beautiful city. It's you know, the tickets cost a certain amount. Like there's certain things that like that makes that accessible for some people, not accessible for others, you know. I think that there's obviously a certain context creates so much. And I think it's I mean, I often think, you know, I am from the United States, but I often think I'm from the island called New York, you know, because it's so different than the rest of the United States, and it feels almost absurd to talk about my work as American. But that is put on it all the time by other people. And I think these questions are so much about perspective and but again it goes I don't know, I feel like I'm in some terrible post-structuralist theory class where I'm thinking of like how each word starts to become so slippery because, you know, I only understood a little bit of your example, but you're talking about a gay person's work who was doing fine. And in the United States, like there's a market for that kind of work. There's definitely contexts where you can be like, I'm doing work about being gay, and it'll go to all these specific kind of venues, whereas maybe what I do is just too fucking weird. You know, because I'm not saying I'm gay, or I'm not like stating the position, my political position in my work. And that makes it actually more difficult. Whereas if I was just saying, I'm gay and I'm upset about it, you know, because there's like a network, you know, for identity politics. I mean, that's a very particular kind of work. It, in a way, it's brandable. It works. And but also in the United States, I mean, I'm not quite old enough to have seen the shift of this, but I do know, I mean, the culture wars in the United States in the early 90s, you know, decimated public funding for art. Did that change art? Fuck yes. You know, I personally often find a lot of work in the United States tremendously conservative. I find a lot of young people's work really uninteresting, really unpolitical, because there is no stake. There are no stakes. You know, we're in a country that's involved in three fucking wars, but we don't feel anything about these wars. You know, so the work you see is about like, oh, I put on a pop song and I do this dance and it's clever and it can be great. You can be like, that's really great. People are dying, you know, but you know what I mean? It's like, who's right, who's wrong in that moment? You know, I mean, I think about this stuff about the United States all the time. And I think, you know, in different countries, in different contexts, there cannot be a separation between politics and the work. There just can't. Because it's just so, you know, if I were a gay artist making work about being gay in Budapest, if I were a Jewish gay artist in Budapest, I'm fucked, you know, right now. I'm fucked. So how do we even have this conversation about this word or about these contexts? I just think there's so many of them.
C'est intéressant. It's really interesting, Miguel, what you're talking about, because now you're talking about provocation in the discourse, in what you're saying, not so much in the form or nudity or sexuality, but really in what we have to say. Are we radical? Are we original? Are we political? These questions are really interesting. Brigitte, tu veux répondre?
Ben, pour aller un peu dans le sens de ce qu'il dit, c'est qu'on mélange peut-être provocation et proposer quelque chose de radical. Où il y a de l'audace, où c'est engagé. Moi, c'est plus comme ça que je me définis que dans la provocation. La provocation, c'est une lecture. Mais ce qui me dérange, c'est qu'on veuille autant étiqueter le travail, cataloguer les choses. C'est comme ça que des gens décident, par exemple, que ça peut pas aller en région pour telle raison. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est quand je disais tantôt, on fait quelque chose de weird, on va m'appeler. Moi, j'ai été étiquetée, tu sais. Alors, les gens, des fois, vont m'interviewer, ils savent pas trop dans quelle case me mettre. C'est fatigant, ça, tu sais. C'est comme s'il faut absolument. Et ça, je trouve ça épeurant parce que c'est comme si on décide à la place du public, c'est prendre pour des caves, ils pourront pas comprendre ça. On se trompe. Moi, je pense qu'on se trompe. Il faut l'offrir. Il faut. Je pense que c'est le public. C'est là qu'on laisse pas de place pour moi aux spectateurs de décider si ça a sa place ou pas, là, tu sais, ce spectacle-là. Alors, c'est quelques têtes dirigeantes qui cataloguent, qui décident. Ça, je trouve ça beaucoup plus dangereux. Pour moi, c'est la provocation. Ça, c'est la provocation pour nous.
Je pense qu'on avait une question de monsieur ici.
Vous parlez de provocation, de scandale depuis un bon petit bout de temps. Il y a plusieurs semaines au Québec, il y a eu un scandale, je pense, au niveau du théâtre avec un monsieur qui s'appelle Bertrand Cantat qui a assassiné une femme. Je n'ai pas les détails de l'assassinat, mais je crois que c'était avec des coups. Là. C'était un acte qui était extrêmement violent, qui a entraîné la mort de cette femme-là. Cet homme-là était condamné, tout ça. Il devait faire partie d'une série de spectacles qui étaient des pièces de l'Antiquité, là, des Sophocles, tout ça, et qui tournaient quand même autour d'une thématique féminine. Là. Ça, je pense que ça a fait scandale aussi. Je sais pas, je ne veux pas du tout me prononcer pour l'artiste, mais est-ce que c'était un geste de provocation ou pas, j'en sais rien. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est qu'il y a eu un mouvement social extrêmement important. De votre côté, est-ce que si vous aviez une réponse, par exemple, aussi forte que celle-là, pour ceux qui connaissent l'événement dont je parle, là, est-ce que vous ajusteriez votre proposition artistique ou quelque chose comme ça? Parce que la réaction du public a été quand même très violente dans ce cas-là, pour ne pas dire extrêmement violente, assez radicale, et c'était pas juste, je pense, une certaine couche de la société, il y avait aussi les gens de l'intelligentsia là-dedans qui n'étaient pas d'accord. Peut-être que ça fait partie aussi du scandale. Hein? Une proposition qui faisait déjà scandale.
Pour être conséquent, je pense qu'il faut juste dire que c'est le spectateur qui a le droit ou non de voir ça. C'est le spectateur qui a le choix de payer un billet pour aller le voir ou non. Un gouvernement n'a pas à décider si cet homme vient ou non au pays. Quand j'ai entendu Christine Saint-Pierre dire « nous ne pouvons pas choisir pour... » Si on commence à s'ingérer artistiquement, nous, le gouvernement, là, il y a un problème. Et je salue très, très bas Christine Saint-Pierre d'avoir dit ce genre de truc.
Merci. Une préoccupation, peut-être davantage de la critique ou du milieu des arts vivants, ça semble être de réfléchir à un répertoire de formes au-delà de l'idée de garder des traces des performances ou des spectacles, vraiment de les réinvestir. Et je donnerai un exemple, le travail de Marina Abramović qui revisite ses performances ou celui de Boris Sharmatz, par exemple, sur Merce Cunningham. Et je trouve qu'un effet de ce travail-là, c'est de déplacer un peu, justement, la réflexion sur la provocation ou sur la radicalité et de se questionner davantage sur la forme, sur l'esthétique, sur les filiations de ces artistes ou sur le discours, justement, des œuvres. Et donc, si on faisait une accélération du temps et on vous invitait à revisiter ces œuvres qui semblent rapidement vous étiqueter comme provocateurs, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on mette de l'avant ou qu'on retienne? Qu'est-ce qui vous semble important, donc plutôt au niveau justement de la forme, de l'esthétique, des filiations ou du discours?
I have a recent experience of this. I think, based on how the question was proposed to me, we recently performed in Mexico. At the beginning of May, and we did a show that's from 2005 called Retrospective Exhibitionist and Difficult Bodies, which was the first show that I made that started to have a real touring life. And I had made a couple shows before that, and but that was the piece that people were like, "Oh, that's your piece," how they do that to you. Your solo, that's the piece. And we hadn't done it in a couple years, the whole show. Sometimes I just do the solo, but this is a solo and a trio together. And it was so fucking awful to do that show again for me in many ways. Like, I felt so aware that I had made this show at a specific moment in my life, and I was answering certain questions. And I really got angry that I was representing myself in my own work, in a way that did not feel, just didn't feel like where I wanted to be anymore. And I felt very trapped in my own work, and I felt very trapped in the idea of what other people were going to think as a result of the work. And I came away from that experience feeling like this piece is finished for me for now. And which I had never felt that way about anything before. Never, never, never. So it was very interesting to have that feeling. And you know, I do think it's scary in performance or in the art world, because people start to tell you what you are. You know, they start to say, well, you're very blah, 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 blah. You know, you have these meetings with people and they're like, well, I really like you because you're blah, you're this, you know, and you're like, you know, and I still haven't gotten used to that kind of interaction, because in my own experience of myself and in my own work, like, I have to believe that I can continue and that I can change. It's so important, and that I can completely dissatisfy someone else's idea of what I am supposed to be.
Moi, je comprends entre les deux, en fait, parce que ça fait 7 ans que la pornographie des armes tourne. Et puis, on veut encore... Je suis très content que cette pièce-là tourne, ça fait 7 ans, puis que les gens aiment ça et tout. Le truc, c'est qu'on me parle encore, pourquoi la nudité, puis j'ai plus envie de parler de cette pièce-là. Ça a été fait, j'avais 29 ans, j'en ai 37 maintenant, je veux plus entendre parler de cette pièce-là. Mais on revient toujours avec ça. je dis aux danseurs, allez-y, parlez de la pièce. J'ai plein de petits nouveaux qui rêvent de faire ça. Mais les journalistes, les médias, les diffuseurs, il faut toujours que je sois présent pour parler de la pièce et tout. Puis, en même temps, moi, je veux me débarrasser de cette pièce-là. C'est terminé, cette pièce. Ça fait partie de mon passé. Elle était là, c'est parfait. D'un autre côté, moi, je veux avancer. Fait que d'un côté, on me retient, puis de l'autre, moi, je veux m'en aller. Fait que c'est super dur de toujours comme... Puis là, tu veux avancer comme artiste, mais on travaille toujours avec mais ta première pièce. OK, c'est beau, c'est fait. On veut juste passer à autre chose.
Mais, moi, j'ai aucune nostalgie non plus sur les anciennes pièces. Au contraire, souvent, même quand on travaille une pièce, on pense déjà à une prochaine. Fait que c'est constamment comme ça. On veut pas... Comme disait Mia, c'est comme du passé, on veut pas se répéter, sinon c'est faire des recettes, c'est une recette, puis tu refais toujours la même chose, puis tu deviens la caricature de toi-même, là. C'est comme, c'est ce qu'on veut pas, on revient encore à l'étiquette. Même si souvent, moi en tout cas, ça m'arrive tout le temps, je suis en processus de création sur une pièce, puis je pense déjà à la prochaine, tu sais, c'est que c'est un peu étrange, mais c'est comme ça.
Daisuke?
そうですね僕もこの夢の城は、4年ぐらい前の作品なのでまああまり変わってるところもあれば変わってないところもあってその時のやっぱり気分ですよねそれに自分が納得するか上映してというところしかないからあまりそんなに
ごめん Désolé. Cette pièce que j'ai apportée à Montréal, le Château de rêve, ben, ça fait 4 ans que j'ai créé. Et ça bouge, hein. C'est pas la même façon qu'il y a un changement. Et pour moi, si ce n'est pas le même endroit que je fais, c'est toujours intéressant, la réaction est différente. Et en même temps, je fais autre chose aussi. Alors, comme vous avez dit, alors, les choses que j'ai faites il y a quelques années ne sont pas nécessairement complètement démodées. Alors, il y a une nouvelle approche à travers le pièce qui porte le même nom.
まあ、それは議論することではなくて、まあ、作家の個々の問題でしかないかなと思います。この問題かなと思います。はい。
Alors pour moi, c'est mon point de vue personnel, mais chaque auteur, chaque réalisateur va réagir selon leur goût.
On dit qu'une même robe est provocante 10 ans avant son époque, audacieuse 1 an avant son époque, chic à son heure, démodée 3 ans après, hideuse 20 ans plus tard et comique au bout de 30 ans. Avez-vous peur d'être comique ou d'être plus pertinent?
Comique,
oui. Ouais. Est-ce que vous avez peur de perdre votre pertinence? Are you afraid to become irrelevant?
All the time.
Tout le temps. C'est pas épeurant. Tu sais, garde, si j'ai fait 2 pièces puis ça marche, puis après c'est fini, ben c'est fini. Puis après je vais être juste un ringard puis c'est tout. Faut juste accepter ce truc-là en fait.
Pas de peur de devenir un has-been.
Non. Ben, si je viens has-been, c'est ça qui va arriver. Là.
Yeah, I mean, it's of course you could become afraid of becoming irrelevant. I mean, duh. Everybody's got to pay the rent, you know? And it's also like, you know, it's so seductive to people to say, people are always like, oh, that person's work is no longer interesting to me. You know, that creates so much power, you know? You've become so powerful in that moment, the moment you can decide that someone's finished. It's like a cruelty that we all do all the time, you know? And so, yeah, who doesn't want that to not happen to them? I mean, right? It's like a marriage.
I'm sorry, my question was a bit not so interesting.
No, I know, it's like, God. No, I'm sorry, not mad at you.
しいですか。そうですね。いや、僕も35なんですけども、あまりその変わってないですね。年っていうよりもやっぱり環境かもしれないですね。結婚したりですとか、子供生まれたりですとか、何か環境が変わるたびに何か自分の書きたいものとか作品も変わっていくんだろうなという気はしてて、年齢ではないような気はしてますけど。
Moi, j'ai hâte de vieillir. J'ai 35 ans et ce que j'ai écrit 25 ans est certainement différent. Alors, mon milieu a changé. Mon état civil a changé. Je suis marié, j'ai des enfants. Et puis, chaque fois, ma valeur change. Et à chaque moment, on a des choses différentes à dire. Donc, c'est une bonne chose, vieillir.
Merci. On termine sur cette chose que c'est une bonne chose de vieillir. Donc, on va retourner à nos studios, à nos salles, à nos loges. Puis, on va essayer de se poser comme question comment faire pour devenir de meilleurs artistes. Merci beaucoup.